de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leurs sous dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Exceptionnellement, cette émission va être consacrée à la lecture d'un poème radiophonique en forme de récit pour Radio Occitanie. C'est donc un de mes poèmes et c'est un recueil qui s'appelle « Toile Bretagne ». Christian Saint-Paul, donc « Toile Bretagne ». Poème radiophonique en forme de récit pour Radio Occitanie. Cette terre veille dans sa parole, exotique pour nous, sa nostalgie et ses chagrins. Il nous fallut encore apprendre la mer, cette mer qui va et vient et repart vers des énigmes d'îles et de tempêtes, et s'endort, faussement paisible du sommeil, de l'après-désespoir. Nantes, ce fut la trace de Cadou, la maison de règne de Bretagne. L'errance, dans les marécages de la Brière, le sourire d'Hélène, qui nous ouvrit la chambre où il écrivait, et dans l'école de Louis Ferre. Jocelyn, Sainte-Anne dorée, Vannes, Lannion, Plouguer, Nevelle, les poèmes posthumes d'Armand Robin. La certitude qu'il existerait une vie sans nous. Max Jacob à Quimper et partant jusqu'à Drancy, son buste en bronze photographié comme un trophée. Douarnenez à une encablure de la mer, le silence sur la pierre tombale nue de Georges et de Tania. Jean Laugier à Lorient et à Moëlan-sur-Mer, Charles Le Quintrec, que nous cherchions dans les librairies et les bibliothèques où la pluie nous poussait. Tout notre élan, là, dans cette terre, vous paraît un ordre pour que ceux qui y retournent, marins brûlés des mers chaudes ou glacées, sachent que rien n'y change et qu'ils peuvent partir encore qu'ici le perpétuel est l'éternel. Douarnenez, Douarnenez, terre de l'île. La petite maison de pêcheur que nous habitions avec son jardin, langue de terre étroite qui s'étirait en pente, maison basse et sombre, havre haché entre deux routes. Nous allions au port à pied, joyeux, pour quelques frasques gourmandes. C'est en se mêlant à tous que l'on reste entre soi. La vérité des marées, celle de la baie ample où se noie le regard, devenait la nôtre et nous prenait la main. Parler du grondement de la mer, défaite parfois comme des vies qu'elle a malmenées, des vies en haillons, ouverte à l'ombre jusqu'à la nuit. Douarnenez, la rouge, la colère ouvrière pour épopée des conserveries de sardines. Douarnenez, halte du fugitif, là des caméras et des mises en scène, du clinquant parisien, des glorioles de pacotille. C'est là, dans cette ville, qu'il croyait vide d'attention, que Péros avança à nage, reculant en toute autre chose. Et nous nous avons tiré le pays sur nous, sans pouvoir taire la mélodie du ressac, captif de ce lieu promis comme un purgatoire. Les flammes de l'enfer ont bien pu démater la chapelle de Rocamadour, coupable à saut de serpent rouge pour Saint-Paul-Roux, Camaret sur mer, phénix entêté, rené de ses cendres. Dans la rade, narguant la tour Vauban, aux briques florentines des navires rouillent, confiant dans l'innocence de la mer que leur lèche les flancs pour l'éternité. Nous entrons humblement dans l'étoile de la mer, déposer la prudence du temps à disposer de toutes choses. La Manche retire sa froide abondance vers l'échine du large. À marée basse, son chant meurt, et le silence pèse sur le sable veiné d'algues vertes. Sur les hauteurs de Binic, la vue s'envole, sur ses sillons concentriques d'algues, comme du blé en herbe, qui se noie au loin, dans le gris bleu de la mer. Au port, où l'eau s'est retirée, les bateaux finissent par s'échouer, bâtiments qui chancellent et se couchent sur leurs flancs robustes, terrassés par le vide. Ils miment, dans une ensemble mélancolie, leur possible naufrage. La pluie du matin sur Erquy, son ciel changeant, la fraîcheur redoutée, autant d'avertissements, l'été s'essouffle, septembre ramène des ombres, mais d'instant en instant, l'œuvre du ciel ressuscite le soleil. Une immobilité occulte, en séjour de grande marée, fige la mer à un destin de plat miroir loin de la côte. Le ciel y reflète ses tourments, scintillements et ténèbres, la bonté qui ravage la vue insuffle un air anesthésiant. Même l'homme respecte cette harmonie par ses logis semblables sans démesure, au toit de noire ardoise qui emprisonne la lumière. Dur labeur, ces maisons de pierre. C'est plus haut, sur les monts qui enserrent la baie, que la roche noble expose sa fière mémoire à nu, abandonner les carrières de granit. Des chemins de traverse dans les bruyères et les genêts mènent à des falaises abruptes où jadis l'homme façonnait la roche en des blocs d'une insondable pesanteur. Des rails de chemin de fer au nébuleux parcours avorté dans la lande attestent d'un passé besogneux. Nous nous photographions face au vent, dans sa rage solitaire qui ne porte plus le tumulte de la carrière d'Erquy qu'à une éternité captive de voix fantôme. Automne, serti des humeurs du soleil, à scintillé, portrieux, l'air tremble sur la plage d'un indiscernable instinct. Le sémaphore prolonge le mystère. Secret défense, défense d'entrée. Ici, loin des chimères qui enfièvrent la mer, des marins surveillent le territoire maritime et aérien. Dans les roulis du changement des vents, savants en météorologie, ils disputent la peur des équipages en détresse dans la jungle d'une mer endiablée. Plus bas, les plages sont vides, délaissées dans l'été finissant. Dans un parc, dans la quiétude d'arômes libérés de fleurs, mêlés d'arbres effeuillés, des hommes et des femmes, sans souvenir des chacals de leur enfance, heureux dans leur vieillesse, habiles de leurs mains de vieillard, lancent de grosses boules de bois dans un couloir de planches. Une femme frêle, sèche, comme une fleur sans sève, rit de son adresse à ce jeu, comme à toute chose. Vaincu, son mari se grise du souvenir de la chaleur colorée de ses jupes. Cinqué pour trier, lucarne sur la mer qui emporte les destins et fredonne les amours renouvelés des jours, des nuits et des nuages qui passent. Les allers-retours à Lamballe, les brumes s'étiolent dans le matin. Le soleil libère la ville des mâchoires du passé. Dans une rue montante, remède aux tourments des voyageurs, le restaurant providentiel où officie en couple pour notre régal le poisson et le cidre frais avalés sous des photographies des temps anciens. Permanence de la ville dans ses vues à l'âge révolu, connivence des époques qui se tiennent la main, les maisons à colombages, fleuries, coquettes, maquillées, se dressent dans le ciel mouvant. Et la maison du bourreau, ainsi nommée pour attirer le chaland, friand de supplice, n'a jamais logé que de paisibles bourgeois et aujourd'hui le musée naturel. L'église Notre-Dame, sentinelle irrévocable des changements, que ressassent ces bris séculaires? En 1793, des soldats sont casernés dans l'église qu'ils profanent avec un vandalisme rageur. En 1794, les mêmes ou presque, fêtent la célébration décadaire, ce culte révolutionnaire à l'être suprême. Les cloches sonnent avant la lecture des lois nouvelles et des discours emphatiques, suivis de symphonies patriotiques. Quelques mois plus tard, en septembre, une chaîne de 208 forçats, en route pour la déportation, faisant étape à Lamballe, passe la nuit dans l'église, enchaînés les uns aux autres. Est-ce l'immense expérience du lieu qui attira la foudre par deux fois sur la tour de l'église et qui vola en 1985 la vénérable statue d'albâtre de Notre-Dame que l'on remplaça par une statue en marbre blanc? Un jeune soleil filtre son éblouissement dans les vitraux jaunes et bleus qui encerclent les fidèles d'une transcendance automnale. Nous nous serrons dans cette chaleur tourmente. Et si ce n'était pas la richesse qui engendre la guerre, mais la pauvreté, pressant Sylvia Plath. La pauvreté, la guerre pour fermer les yeux de ceux qui pourraient voir au-delà des larmes, les guerres incessantes de Bretagne, les nuées de mort qui remontent la mer, s'allongent dans les îles, font leur lit dans la rance. À Dinan, l'idée enfantine de la guerre que nous offrait le connétable de France, Bertrand du Guesclin. La grâce du courage en armure et à cheval, sur la place où il trône, bordé de tilleuls, dans l'immobilité qui le tient prisonnier plus longtemps qu'en 1364, après sa défaite à Auray. Aujourd'hui, défaite des nuages, qui s'enfuient à notre approche, politesse due aux étrangers, le soleil incendie le magnolia de l'église de Saint-Malo, arbre de Dinan, rempart des tragédies de la mer, comme des leurres pour les vrais remparts, ce qui enfermait la ville et la délivrait d'un destin funeste. Rempart, maintenant, offrant d'hospitalières promenades où les miséreux, qui ne disparaissent jamais, s'endorment sur les bancs d'hélices, soupirant dans leur sommeil les mots de Georges Perros. C'est l'avenir qui m'intéresse. Écrire que nous allons vivre est vraiment très aventureux. La menace sévit toujours, celle du donjon, juché au-dessus des remparts, effrayait le bon peuple de Dinan et tous ceux que la vie épouvante. Jean IV, duc de Bretagne, ne se hasardant que rarement dans les brumes de Dinan, logé quelquefois dans le château, fier de ses 15 tours et de ses 4 portes, qui donnaient une assise à son autorité. Dinan. La guerre creusait ses fosses sous les remparts et emprisonnait la ville dans son obscurité. Mais gens de lettres sont gens de bien. Charles Duclos, écrivain, académicien, maire de la ville, en 1746, fait planter sur les contrescarpes 2 allées d'ormes pour jeter leur ombre sur les feux de la guerre. Quel gît en terre, trahi par tous ses amants. Et Dinan, pour raconter ses heures, sonner les messes dans tous les couvents, une femme l'a voulu. Régnante femme, la duchesse Anne, accorde à la ville de se guider dans la menace du temps qui passe. La tour aura son horloge allemande, faite à Nantes. Le temps pénètre les vitraux de l'église Saint-Malo et Anne fonde l'église et entre à Dinan par la porte de Brest. Le soleil s'attarde sur le vitrail au moine à lunettes. Ici aussi des dominicains ont prêché. Saint-Vincent Ferrier, ne pas regarder négligemment vers Dieu. Est-ce vie soumise, celle d'une seule espérance? Et des lunettes encore, dans les vitraux de l'année de la guerre 1939, à la basilique Saint-Sauveur, celle de Pie XI, qui consacre des évêques chinois. Mais le monde ne s'est pas engourdi dans un jardin tranquille, et les religieux à lunettes demeurent figés dans les reflets du vitrail. Armand Robin priait sa mère de dire au Christ qu'il voulait n'avoir pas besoin de lui. Ici, pour vivre dans la durée, il faut savoir toucher terre. En 1901, les 27 hommes de la Maria Island avaient pour seul maître à bord, après Dieu ou son fils, le capitaine Pomies, entraînés dans les vents contraires et sédimentent depuis les abysses de l'océan. Leurs voix se sont endormies dans les algues lisses. Leurs fantômes, silencieux, voguent, âmes célestes, au-dessus des fidèles, dans ce voilier suspendu dans l'église de Binic, sûr qu'ils voulaient, eux aussi, n'avoir pas besoin de lui.
Ces chers fantômes dont s'inquiète Georges Perros, nous leur devons la vie, nous doivent-ils leur mort ? Ont leur nom sur le monument aux morts de Paimpol. Face à eux, dans les années échevelées qui nous séparent, nous sommes ces innocences insignifiantes qui remettraient en croix Jésus. La mer à Paimpol déflore la vue. Dans l'épaisseur du temps, les goélettes coulent au fond leur cargaison d'hommes et de morues. Par milliers, leur nom se grave sur les mémoires. La mer, mangeuse d'hommes. Ce tableau qui marqua mon enfance, dans quel recoin de silence est-il englouti? Il ornait la salle à manger de ma tante à l'école maternelle Jules Julien de Toulouse. L'imagerie bretonne triomphait jusqu'aux Pyrénées. Des femmes en robe noire et coiffe blanche, vues de dos, agitaient bras et mouchoirs en guise de revoir vers les goélettes toutes voiles au vent qui gagnaient le large et l'hiver de l'absence. Tout retour est hasardeux. La mer est un marché dont on découvre le prix qu'elle a fixé à la manière d'un lieu impénétrable. Le bon Théodore Botrel, pour sa rime à sa paimpolaise, donna à Paimpol une falaise, mais ses rêves de poète. Aujourd'hui, la ville calme ne jette en travers de l'été que sa gaieté d'échapper aux affronts des tempêtes. Les souvenirs des mauvais jours grouillent au musée de la mer et les temps héroïques s'invitent à jamais sur le monument aux morts qui unit dans la même bousculade fusillés et morts en déportation, tués pour fait de guerre 1939-1945. La nuit n'efface pas le malheur à sa porte, et une stèle en marbre noir donne sa raison d'être au Flight Lieutenant Mehari, néo-zélandais de la RAF 64 Squadron, tombé à Lézardieux le 5 août 1944. Et sur le monument voisin, aux sculptures d'anciens mystères, une main griffue maintient accroupi un homme aux évadés de la Moraine. 22 novembre 1943, Jézéchiel Yvon, chef du réseau turquoise, mort à 20 ans en déportation. Saint-Cast, le Guildo. Cette plage tourne autour de sa baie, côte d'Émeraude. Le lointain se fond dans le proche comme le haut dans le bas et le bas dans le haut de la table d'Émeraude. Histoires anciennes, maisons anciennes, c'est Biarritz sur la Manche. Le vent enlace les trois drapeaux, Bretagne, Côte d'Armor, Europe. La pointe de Saint-Cast, ce jour de tous les détours, scintille d'une lumière d'acétylène. Le sémaphore qui n'ouvre ses sèches entrailles qu'aux militaires offrent sans le vouloir une vue sur le fort La Latte, dont la majesté atteint la plage de Pissotte. Le château de Gilles de Bretagne, duc jovial a tué, qui courut le Guilledoux s'effondre en de molles ruines. Les Jaunets, pêcheurs de Saint-Cast, portaient leur guerre au plus proche, ceux de la presqu'île d'en face, Saint-Jacut de la mer, les Jagueurs. Des voiles frivoles ce jour ne tuent plus que l'ennui et détournent l'horreur de tout ce qui est bon. La guerre encore ici. Les nations s'entrechoquent. Les peuples héritent de leurs frayeurs. Les Allemands détruisent le phare de Fréhel, les Bretons élèvent un nouveau phare dans un granit plus beau, plus impénétrable. L'anse des Sévignés, mer où pêchent les cormorans, tient à égale distance le fort La Latte et le cap Fréhel. Les Jeunets sèment leur monnaie d'or parmi la bruyère. Les rochers tapissés de guano réfléchissent le soleil qui sèche de
plume parfaite des oiseaux de mer, le vent à travers les landes, d'humeur changeante, remue le ciel ivre de puissance, apportant beau temps ou mauvais froid. Par quel chemin arrivons-nous à Guingamp, un dimanche de rue vide? Silence, dans la tache jaune de midi, le soleil efface la silhouette des maisons et le visage des hommes. Les oiseaux restent derrière le ciel, ce n'est pas l'heure des promenades. Les murs mangent leurs ombres, aucun cri ne creuse l'attente. Guingamp, presque rien, pas de traces, pas de signes. Tout au fond du dimanche breton, retiré des côtes, veuve de la mer, la ville muette nous tourne le dos, éclipsant la vérité du lieu qui se vide dans un sablier sans fond. Et nous sommes ces grains de sable qui tombent dans une ville, taris dans le soleil, le zénith du soleil, comme une rivière morte. Ô Guingamp, cette longue marche entre les mâchoires de la nuit de terre désertée, Guingamp, comme une jarre cassée, le long du trio, retient le poids de quelques vestiges, cicatrices malingres de ses défaites. Guingamp, ta vérité inaltérable, au sortir du mutisme de façade et des espaces brisés, mais pour les gens de passage, se faufile dans l'appel silencieux et bienveillant de Notre-Dame de Bon Secours. De la rue, dans ses murmures de lumière et ses draperies, la Madone noire nous invite à plus de charité. À l'oratoire fleuri comme au jour des noces, nous nous pressons, oublier la nuit rase d'une ville qui se cachait. La Vierge noire, dans sa robe blanche et bleue, porte l'enfant, souffle qui monte au-dessus des 12 apôtres. Ce souffle qui rôdait le 8 septembre 1857, parmi la foule innombrable, l'évêque Lemay, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier, les 800 autres évêques et le pape Pie IX. Vierge noire, magnifiée tous les jours par les nuées de flammes de bougies et les murs de fleurs. La cathédrale immuable exhorte les visiteurs à la fidélité au projet d'ordre et d'éternité. Jeanne d'Arc, au centre de 4 panneaux de bois, écoute ses voix à l'apothéose. Sa vision se forme sur les paroles célestes qui l'enferment. L'image colorée de 2 cousins vaillants bretons déborde de son vitrail par les rayons ardents du soleil. Eux aussi, c'est écrit, ont succombé glorieusement pour Dieu et la patrie. Mais au cours de quelle guerre? Celle de 1870 ou celle de 1914? Les guerres devancent la mort. La Bretagne est un rêve que j'ai fait, se justifie Georges Perros pour vivre à Douarnenez. La Bretagne transit dans nos respirations, dans les confins secrets des forêts que traversent les petites routes sinueuses par lesquelles nous rejoignons étable sur mer. La Bretagne déleste toute pesanteur sur la plage et au loin sur la baie de Saint-Brieuc. Une légèreté s'épanouit avec des hortensias. Sur la plage, un chien poursuit les mouettes, saute dans les vagues, ivre de joie, de liberté, d'espace. Ses maîtres, un couple dans le rayonnement de la jeunesse, le siffle. Docile, le chien consent à une promenade sage. Gagné par l'ataraxie du lieu et la quiétude du chien, nous allons lire Georges Perros dans le parc de la mairie où trône un cèdre au tronc gigantesque. Tout à l'heure, nous prendrons une route perdue. Si de vieux marins, pêcheurs de Terre-Neuve et pêcheurs d'Islande,
dessillaient leurs yeux morts aujourd'hui sur Pleuneuf-Val-André, ils nous diraient que la ville est plus belle qu'avant. Lassés du travail de naviguer, ceux qu'on enrôlait dans leur ivresse à l'auberge, s'ébahiraient des belles maisons mondaines des estivants. Comment auraient-ils pu soupçonner, eux, les débraillés, revenus des mers froides, qu'une génération de bourgeois aurait bâti des villas avec des tours pareilles aux châteaux? Au loin, une terre étrangement découpée s'enfonce dans la mer qui la submerge. Plus près, une cohorte de vieux randonneurs à casquette arpentait la plage à marée basse, une canne dans chaque main. Vieillesse heureuse encore, avec cette grand-mère anglaise qui fait sourire des enfants pour la photo. Le vent vient de la mer, de derrière l'horizon, où se découpe en ombre chinoise l'île Les Comtesses. Stalagmites, dans l'immensité salée, poussée dans la brume, se contracte une chose verticale et noire. Un phare aux confins de la vue? Sur le côté de l'autre rive de la baie, sur les coteaux qui finissent par s'évanouir, scintillent gouttes de lumière blanche qui tombent et traversent le temps. Les murs des maisons, repères fugaces, présence omnivore de l'homme. Ces traces partout se faufilent, reflets ou esquisses du chaos. En congé de haute mer, des voiliers abrités par une haute digue s'enlisent provisoirement dans une paix flasque. Sur la plage, des bouées jaunes se dresseront au bon gré de la marée. C'est alors que le paradis des pêcheurs de coquillages se refermera sur des remous froids. Une mouette solitaire, maillon isolé d'une chaîne, course en poids sur le sable, embrouillé par ce vide qu'elle démasque, fait des 100 pas en quête d'une hasardeuse décision. Sans doute le temps qui se repose brisera tous les passages de l'oiseau marin en ruines inintelligibles. Et Planeuf, Val-André, prendra forme encore, définie et concise. Rouissage, taillage, tissage.
Navires gonflés à tous les vents leurs voiles de lin. Toile Bretagne. Lin rude barrant l'air dans sa course. Lin si fin et précieux que Charles Quint en fit son linceul. Quintin en fit sa gloire et bâtit son château. Les marchands édifièrent maisons à colombages et maisons en granit. Quintin, dans le vacarme des guerres. Quintin, dans la trame des temps aux traits changeants. Quintin, dans le chaos de ses chemins, ses innombrables possibles, sa prospérité d'habile tisserand, son déclin. Ville qui s'effiloche et protège ses vieilleries. C'est à Quintin que Céline se marie le 10 août 1919 avec Edith Follet. A-t-il confié un intime secret, une supplique de joueur avide à la Vierge à l'Enfant dans cette église, promue 15 ans plus tard, basilique Notre-Dame de délivrance, Vierge décorée de la couronne d'or, un dimanche, dans les feux de juillet, par l'évêque de Saint-Brieuc et de Tréville. Céline qui récita les savoirs à la douce Edith, ces vers de Théodore Botrel qui s'enorgueillit de son ancêtre. C'est à Quintin qu'on brûlait un cierge devant l'écharpe de la Vierge, que l'on aperçoit sur l'autel dans son voile de mousseline, tel que de Palestine la rapporta Geoffroy de Botrel. Assomption de Marie. Elle détache sa ceinture pour la donner aux apôtres. 1200 ans plus tard, le patriarche de Jérusalem la remet à Geoffroy de Botrel, qui la dépose dans la chapelle de son château pour qu'elle demeure dans la mystique terre de Bretagne. L'ange protecteur s'était retranché de Saint-Louis pour le désastre de cette croisade qui vit le roi vaincu et prisonnier. Geoffroy et son frère Henri, qui en réchappèrent, laissèrent leur château, l'un à Quintin, l'autre à Dinan, et entrèrent au couvent, refermant les portes pour une vie de fond de cage. Quintin, ville du lin, accueillit la ceinture de lin de la Vierge Marie, relique si pure que les flammes ne pouvaient la brûler. Miracle de la Vierge, dans le grand incendie de 1600. Relique prêtée aux familles bretonnes, digne de ce bienfait, pour qu'elles veillent sur les partitions. Chacune de ces familles prélevait son fil et la ceinture rétrécissait. Relique sauvée une fois encore par ordonnance royale de Louis XIII qui interdit son prêt. Toute peine épargnée se négocie dès lors du regard et de la prière devant le reliquaire et sa statue d'argent. Reliquaire porté en procession par les soldats revenus saufs de la défaite de 1870 et Notre-Dame de délivrance décapitée par les révolutionnaires de 1790 remet sa tête martyrisée sur le corps d'une nouvelle statue et console le monde de son autre nom, la Vierge à la Quenouille, hommage des fileuses de lin de Quintin. Il va de soi que la compassion de la Vierge n'a pas changé au cours des siècles. La Vierge à l'enfant de la délivrance et de la Quenouille, patronne incandescente des familles, intercède de son doux regard et de sa robe d'azur, plus savante que tous les saints Yves. Les ex-voto gravés dans les pierres étincellent de ses prophéties. À la nuit tombante, nous nous éloignons de la double silhouette du château et de la basilique, emportant les mots de délivrance dans nos silencieuses pensées. Retour dans le Trégor. Nous venions à Perros-Guirec et à Ploumanac quand nous habitions Lannion. La côte de granit rose et la roche magmatique venue des profondeurs en trois périodes, 2 milliards d'années, 600 millions d'années, 300 millions d'années. Du chaos ont surgi les roches fantomatiques écrasant beauté rougeoyante. Rejoindre de nouveau le phare de Ploumanac en pèlerin joyeux. Ce phare, feu de mine ruse, pierre rouge, allumé en août 1860, détruit en août 1944, rallumé le 1er octobre 1948 à la portée de 12 000 nautiques. Les géants de roche sont chaque fois plus étranges, chaque fois plus proches de nous. Combien de visiteurs ont-ils interrogé le paysage nu des roches, l'océan et les sept îles à l'horizon? Et pourquoi le monde dans ce désert granitique et cette eau bouillonnante se révèle si vivant? C'est dans ce reflet, dans ce relief saillant, que vient une noce. Beau marié, elle loge longue. Elle, robe longue, blanche, bras nus, lui, costume gris. Le photographe les fait s'allonger sur la roche rose. Sous eux, le mur épais du granit, les transits de sa solidité glacée. L'arme du soleil s'est retirée, le temps est gris et froid. À Ploumanac, le premier hôtel accueillant les touristes visiteurs avait pour enseigne à la descente des voyageurs, veuve Laja. C'était en 1881, sur une carte postale, où nous fixe au premier plan une femme à cheval en Amazone. Était-ce la veuve ou une élégante venue admirer le phare? Ces phares, fierté de la France qui en manquait tant, qu'elle en fit construire 62 dès 1825. Qu'est devenue la belle Amazone dans le tourment de la guerre qui l'attend? Dans quelle dépendance du destin son cheval l'a-t-il conduit? Et une guerre plus tard, guerre encore, en 1944, les ondes de la BBC, porte de Londres aux équipes Jedburgh, le message attendu du soulèvement général des maquis bretons. Flot noir, pour toute mort perçue d'avance, cadavre gisant sur les routes indifférentes, jusqu'où finit la guerre, vers quel nouvel ordre
vers quelle nouvelle gloire. Malika, la briochine, ramenait parfois sur son visage cet air de pluie de Bretagne qui restait dans ses yeux le temps de la course d'un balai d'essuie-glace. Cette absence fugace, plus légère qu'un soupir, figeait son regard sur les rumeurs d'enfance de sa ville, disparue au loin comme une cloison vide. Nous parcourûmes Saint-Brieuc, mettant nos pas dans les passages qu'elle avait certainement traversés, et l'obscure vérité de la ville se dessina avec la pluie fine qui nous prit aux épaules. Rue Notre-Dame, là où trône la fontaine, le moine gallois Brieuc fonda un oratoire destiné à être enseveli par une ville nouvelle. Le Saint-Moine avait donné à la Bretagne une de ses capitales. Saint-Brieuc, la pieuse, vécut les romances des guerres civiles, les guerres de la Ligue, puis les guerres de la Révolution. Nous pourrions y faire l'autopsie de l'héroïsme. Dans la nuit du 5 Brumaire en 8, ici mourut glorieusement le citoyen Poulain Corbion, Jean-François Pierre, procureur syndic de la commune, sommé des baïonnettes sur le cœur, de crier « Vive le roi !» Il répondut « Vive la République !» et tomba aussitôt percé de coups. La tour Marie et la tour Brieuc, de la forteresse cathédrale Saint-Étienne, majestueusement belliqueuse, étouffèrent les paroles héroïques. De l'histoire ébouriffée et poussiéreuse, apprendre à ne pas se soumettre, ne pas fuir. À Saint-Brieuc, dans la sacristie de l'église Saint-Michel, le comité départemental de libération 1943-1945 tient ses premières réunions clandestines. L'abbé Eugène Fleury et Jean Métairie, martyrs de la résistance, en avaient décidé ainsi. Est-ce un parler trop lourd que c'est encourageux dans nos si longues années fades où s'éteignent toutes réponses? Devant le magasin Eurodif, un homme âgé lance un couple d'anglais « Bien sûr, je suis heureux de vivre ici, d'autant plus que j'ai pas le choix. » Les lieux élus sont nos pare-feux. Ils nous maintiennent dans le courant vorace de nos certitudes. D'Eurodif, une femme sort avec un long plumeau, un autre entre avec un basset. C'est autour de cette place, qui ne s'appelait pas encore Général de Gaulle, que Louis Guillou et Jean Grenier soudèrent leur amitié au plomb des terres aimées, celle transparente de Bretagne pour l'écrivain de Saint-Brieuc, celle brûlée du soleil d'Alger pour le maître de Camus. Cherchait-il parfois une présence dans la cathédrale de Saint-Étienne, devant le tombeau de Saint-Brieuc et des évêques, au nom brouillé? Aujourd'hui, Pierre Kervenic, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier, de 1976 à 1991, gît dans l'ombre des hautes voûtes et du saint précurseur. Et son visage à lunettes s'appuie à l'éternité en bronze de son effigie. Au-dessus de l'obscurité des tombes, un retable aux couleurs de dimanche rouge surprend le Christ ressuscité dans son ascension. Et coiffant le tableau en statue de plâtre, Dieu familier avec sa barbe noire attend son fils parmi les anges du royaume des cieux. Où finit le monde et où commence son royaume? Charité qui éclaire la nuit dans cette ville étrangement paisible. La maison communale d'action sociale prodigue ses bienfaits derrière la cathédrale, dans l'ancien manoir épiscopal, pavillon en hémicycle avec toiture à façade galbée, style baroque du XVe siècle. Les pauvres de Saint-Brieuc font crisser le parquet de la vieille demeure du lointain défunt Monseigneur Hugues Regnault de Bellecise. Un nuage monte et colore ces ciels de Bretagne qui font accourir des peintres et des poètes pleins de mots qui brûlent. Bretagne,
je t'ai prise aux épaules. Je suis allé à la rencontre de ton souffle, dans les chemins où tu livras bataille. Bretagne, j'ai remonté tes étymologies dans tes estuaires, moi qui ne connaissais que les rias cantabriques. J'ai mangé ton froment et bu ton cidre dans la forêt de Brocéliande, avec Merlin, le roi Arthur, nos Minoé et la duchesse Anne. Bretagne, je suis retourné dans tes terres, labourer le poème à ta gloire. Je suis revenu encore scruter tes rivages d'entre les îles. J'ai mis mes pas dans les pas des poètes. Cadou, dans sa chambre à Louis-Fer, j'embrassais Hélène. Max, à Quimper, comme s'il s'était éteint la veille au soir. Perros, dans la maison de pêcheur à Douarnenez. Armand Robin, partout à l'écoute des langues. Saint-Paul-Roux, dans son manoir à Cabaret, dans les dépendances des pierres, au-dessous de nous. Charles Le Quintrec, dans la bibliothèque les jours d'averse. Alfred Jarry, dans le quotidien de la ville, à Rennes. Jean Laugier, dans le port de l'Orient. Yvon Lemaine, chez un coiffeur à Lannion, celui-là vivant comme Jacqueline Saint-Jean, Brigitte Maillard et Marie-Josée Christian. Celle-là file les mots avec la finesse d'une étoffe de lin et la solidité des toiles bretagnes. Bretagne, j'ai accosté au quai de ta sagesse, j'ai vanné le temps de tes bonheurs enfuis, j'ai touché tes mégalithes à Jarnac, moi, l'Asilien, familier de Dolmen. Bretagne, j'ai reconnu ton histoire dans l'histoire de l'Occitanie, quand on arrache l'ortie cathare. Bretagne, Occitanie, nous sommes sœurs. Nous avons été reines parmi les civilisations trop puissantes, trop brillantes, pour ne pas être convoitées. Civilisation maritime de la Bretagne, qui faisait commerce avec les empires. Civilisation des arts, de la convivencio, de l'Occitanie. Paris a pris nos terres, nos richesses et nos langues, et nous a laissé, au bout de son territoire, nous étioler lentement dans le ressassement du fugace et de l'éternel. Mais nul ne parvint à effacer les feuillages, les sillages de nos temps prestigieux. Les temps n'ont jamais déraciné nos certitudes. Bretagne, tes secrets bruissent dans le vent du large. Bretagne, l'élégance de tes maisons centenaires à Pouliquen, Petite Paix, Blanche, à Dinard et ailleurs. Bretagne, la dignité et la fierté de ton peuple, ouvrier habile de Saint-Nazaire, toujours à l'œuvre, depuis le lancement d'Impératrice Eugénie, premier paquebot mu par des roues à aubes. Métayer, baratant le beurre, autrefois au seuil de leur chaumière en pisé. Marin, partageant dans le roulis le gros à la lueur de la lune. Paludier, entretenant les étiers, cueillant la salicorne et maniant sous le soleil la lousse et la baguette. Paludier et métayer, enchâssés dans leur tradition, chacun leur porte à la sortie de l'église. La moisson des marais n'est pas celle des champs. Bretagne, tu m'as délivré de la prison des doutes, et je regarde librement tes calvaires s'élever dans le plein champ d'une vérité lustrale. Voilà, c'était « Toile Bretagne », donc de Christian Saint-Paul, avec une préface d'Alem sur Garcia. Le tout est édité par les éditions Monde en Poésie. C'est suivi également de Le Trégor, Odiemi, Krascribi, et d'un essai où se niche la poésie. Voilà, aux éditions Monde en Poésie. 133 pages, 12 euros. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adicias.
Zo de temps irié d'un émrayé vide biquet de houle. Who's left?